un retour sur ce livre et sur ce grand bond en arrière que nous vivons. Ben finalement, Serge Halimi, tout est dans le titre. Hein. Le grand bond en arrière, comment l'ordre libéral s'est imposé au monde. Voilà le sujet du livre et le titre du livre. Alors le grand bond en arrière, il faut peut-être expliquer que ça fait allusion au grand bond en avant.
Oui, enfin ça part un peu d'une notation humoristique qui reprend la formulation de Mao Tse-tung des politiques très volontaristes du grand bond en avant à la fin des années 50, parce qu'il me semble que la caractéristique du grand bond en arrière libéral, c'est aussi l'application de politiques très volontaristes qui ont été pensées dès le départ et pas du tout l'application d'une espèce de loi de la nature qui voudrait qu'on ait les politiques qu'on a en ce moment parce qu'elles sont plus raisonnables, plus responsables et plus naturelles.
Ce qui prévaut quand même, l'idée qu'on a, c'est que tout ça, bah, c'est naturel, c'est comme ça, c'est venu comme ça, on ne sait pas très bien d'où. Et là, vous faites tout un travail historique. C'est l'histoire d'une idéologie, hein. C'est un basculement idéologique sur une trentaine d'années.
Oui.
Vous situez le début du basculement au début des années 70, mais vous nous racontez que le projet était beaucoup plus ancien. On savait qu'il existait, mais il semblait absolument ridicule, anachronique. Je parle des années d'après-guerre, par exemple, où ce genre d'idée semblait tout à fait saugrenue.
Oui, l'application du programme libéral intervient à partir des années 70, mais sa conception intellectuelle, on peut en voir la trace dès les années 30. Et en tout cas, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un groupe de penseurs ultralibéraux autour de Friedrich Hayek, qui est un économiste, qui opère d'abord à Londres et puis ensuite à Chicago, qui se sent dans une situation d'assiégé, qui est un peu la situation dans laquelle les gens de gauche se sentent en ce moment. Ils se disent, voilà, le déroulement de l'histoire va dans le sens que nous ne souhaitons pas, et on aimerait l'interrompre et on ne sait pas comment faire. Et bien cette situation-là, c'est la situation d'Hayek au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où il a le sentiment, et ses amis avec lui, que la marche des sociétés occidentales, et puis la constitution d'un bloc qu'on qualifie de socialiste, enlève les unes après les autres les libertés aux entrepreneurs et détruisent la société libérale à laquelle ils sont attachés. Et il décide de lancer une contre-offensive intellectuelle en partant d'une position de minoritaire, d'assiégé, et en se disant, après tout, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faudra qu'on revienne au premier plan et que nos idées s'imposent, même si, à l'heure actuelle, elles ont l'air d'être très minoritaires.
Et il se réfère à l'histoire de l'idée libérale et de la politique libérale, c'est-à-dire à Adam Smith et aux autres.
Absolument. Oui, Adam Smith, dès le XVIIIe siècle, a une vision de la société, une vision de l'individu, qui est la vision à l'issue de laquelle chacun est calculateur et cherche à maximiser en permanence son intérêt. Et au moment où Adam Smith écrit ça, il est évident que sa description n'est pas du tout une description. C'est une projection historique, c'est ce qu'il souhaite voir advenir. Mais au moment où il s'exprime de cette manière-là, les gens ne fonctionnent pas uniquement comme des entités calculatrices. Il y a d'autres sentiments qui les animent que l'intérêt, le lucre, la solidarité, la famille, la piété, la tradition, enfin toutes ces choses-là. Et Adam Smith va arriver, sans le savoir, à projeter ce que sera la société dans laquelle on vit de plus en plus, qui est effectivement une société où on se transforme chaque jour davantage en consommateur qui cherche à maximiser son intérêt, qui se demande quelle compagnie de téléphone choisir pour avoir les meilleurs tarifs de portable, et puis demain, quelle compagnie d'électricité choisir pour avoir les meilleurs tarifs, qui consacre de plus en plus de temps à son activité de consommateur. Et qui se comporte de plus en plus en personne privée, en entité privée, qui a sa télévision, qui regarde sa chaîne de télévision quand il veut, isolé des autres, qui a son téléphone portable, etc. Donc en fait, il va y avoir une série d'évolutions historiques et d'évolutions économiques qui vont faire advenir ce que Adam Smith croit être une description au XVIIIe siècle, qui n'est pas une description, mais qui est une espèce de projection sur ce que sera l'avenir.
Mais les penseurs socialistes, marxistes, et les mouvements sociaux au XIXe siècle luttent contre ça.
Absolument.
C'est une vieille histoire.
Ils luttent contre cela, et comme ils luttent contre cela, ils vont aboutir à ce que la société dans laquelle ils vivent soit davantage réglementée en permanence. Qu'un certain nombre de contraintes s'imposent aux entrepreneurs. Ce sera la journée de 8 heures, c'est la fin du travail des enfants, c'est l'institution de salaire minimum, c'est l'institution d'une sécurité sociale. Et quand Hayek arrive et réfléchit à ce qui est devenu la société,